Ah bonjour, je suis content d'être parmi vous, derrière la chair aujourd'hui, pour vous annoncer la parole de Dieu. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles en 2 Corinthiens 5, 17, 21. Deuxième aux Corinthiens. Chapitre 5, 17 à 21. Et on peut peut-être avoir la page ?
881.
881 dans les petites Bibles. Alors, avant la lecture, je prends un instant dans la prière. Seigneur, je te prie pour ce message. Seigneur, je prie pour que. Déjà, je te remercie parce que c'est par ta grâce que je peux l'annoncer aujourd'hui, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour que nous soyons attentifs et que aussi nous puissions mettre en pratique les choses qui doivent l'être. Conduis-nous, Seigneur, par ta surmain. Au nom de Jésus, Amen.
Amen.
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alors la seconde épître aux Corinthiens a sans doute été écrite en Macédoine vers 56 après Jésus-Christ. On peut ici s'identifier à l'enthousiasme débordant de Paul, qui était zélé pour l'œuvre du Seigneur. Cette seconde épître aux Corinthiens nous fait entrevoir la dignité qui s'attache à sa vocation. Elle a pour but de montrer l'engagement de l'apôtre dans la véritable nature de son ministère chrétien, malgré les oppressions et les accusations venant de frères en proie à la médisance. Aussi, le chrétien doit apprendre la discipline qui découle de l'amour du Seigneur et du désir de lui plaire. Dans cette seconde épître aux Corinthiens, nous allons voir comment l'homme peut être réconcilié avec Dieu. Et le message de grâce pour nous aujourd'hui. Cela me fait penser à une histoire. C'est l'histoire d'une Vietnamienne. Peut-être connaissez-vous l'histoire de Kim Phuc. Cette histoire est celle d'une tragédie où Kim fut brûlée au napalm alors qu'elle n'avait que 9 ans. Kim était au beau milieu d'un conflit parmi les plus meurtriers du XXe siècle. C'est la guerre du Vietnam. Suite à ce qui lui est survenu, elle a eu pendant longtemps le sentiment de ne plus pouvoir être aimée à cause de ses brûlures sur tout le corps. Grâce à sa foi placée en Christ et à sa réconciliation avec Dieu, ce sentiment a aujourd'hui disparu. Elle croit et sait que Dieu l'aime pour ce qu'elle est et non pour son apparence physique. Cette réconciliation vécue avec Dieu lui a permis de se réconcilier avec elle-même et elle a aussi pu pardonner à ses ennemis et même apprendre à les aimer grâce à Dieu. Elle est aujourd'hui ambassadrice à l'UNESCO, donc l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Alors au travers de cette histoire et du texte que nous venons de lire dans la Bible, je vous invite à regarder trois effets de la réconciliation. Le premier effet de la réconciliation, être une nouvelle créature. De Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Avant de parler de nouvelle créature, il nous faut comprendre l'état dans lequel se trouve l'homme qui n'est pas encore né de nouveau. Si je parle de la grâce de Dieu en Christ, sans établir ce grand fait qui est qu'aux yeux de Dieu, l'homme est entièrement mort dans ses péchés, eh bien, le message de l'Évangile est affaibli. L'homme pécheur demeure mort spirituellement. Il est étranger à la vie de Dieu et par conséquent, il ne saurait lui plaire. L'homme pécheur est méchant par sa conduite coupable. Il est sous le joug de la colère de Dieu et de la malédiction. Il ne participe donc pas à la bénédiction voulue par Dieu. Qu'est-ce qu'une nouvelle créature ? Une nouvelle créature sous-entend une position, celle d'être en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est fait nouvelle créature. Le changement qui opère dans le croyant est celui-ci. Je ne suis plus en Adam, par qui la mort s'est répandue, mais en Christ, avec une nouvelle vie qui m'est octroyée. On parle de l'état d'un homme en Christ, ce qui signifie simplement être sauvé. Et c'est ce que Jean nous disait tout à l'heure. Il y a les sauvés et les autres. Eh bien, c'est cela la nouvelle naissance dont parlait le Seigneur Jésus à Nicodème, en Jean, chapitre 3, verset 3. Jésus lui répondit, donc répondit à Nicodème, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et la nouvelle naissance n'est effective qu'à partir du moment où l'homme est en Christ. Avant la conversion, nous ne faisions pas partie des enfants de Dieu. Mais en Christ, par la foi en lui, nous sommes ses enfants, ses fils et ses filles. Avant, nous étions morts spirituellement, mais en Christ, nous sommes rendus vivants grâce à l'Esprit de Dieu. En effet, après que l'homme ait cru, Dieu envoie, selon sa promesse, son Saint-Esprit, gage de notre héritage, qui scelle le croyant, qui l'enseigne et le conduit. Alors, c'est le croyant, c'est... Je donne l'image d'une chaîne avec un cadenas, voilà, vous faites le tour, crac, un cadenas, le Seigneur dit, je te scelle du Saint-Esprit, tu m'appartiens. Mais pour ça, il faut croire en Christ. Eh bien, le Saint-Esprit, dont il est scellé, enseigne le croyant, le conduit dans la parole, afin qu'il participe davantage au caractère divin. L'œuvre que Dieu commence en chacun de ceux qui croient verra un jour son achèvement au jour du Seigneur. Alors, comment devenir cette nouvelle créature ? C'est par le moyen de la foi, dans le sacrifice de Christ et de son œuvre de rédemption voulue par Dieu. Pour rendre possible cette réconciliation. Autrefois, nous étions ténèbres, nous sommes aujourd'hui lumière en Christ. Nous étions sans espérance puisque nous ne connaissions pas Dieu. En Christ, nous sommes les enfants réconciliés avec le Père par le moyen du Fils, par la foi en son sacrifice pour le pardon efficace des péchés. Alors on a pu lire, les choses anciennes sont passées. Qu'est-ce que cela veut dire ? Avant la conversion, il y a la notion de jugement selon la chair. C'est-à-dire un jugement surtout basé sur les apparences, sur des critères humains. Et parmi les choses devenues nouvelles, il y a ce changement de jugement. Et ce changement de morale dans l'homme ne peut se produire que par un acte de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est l'agent qui opère la régénération dans celui qui place sa foi en Jésus-Christ. Le fidèle étant désormais scellé du Saint-Esprit, je vous ai expliqué tout à l'heure, il recherche les choses de l'Esprit qui opère en lui une profonde transformation de son être, de sa pensée et de ses mécanismes. Les préjugés, intérêts et opinions stériles se voient avec le temps remplacés par l'Esprit de Christ qui rétablit l'ordre au sein de la raison humaine. Alors Dieu s'est révélé au travers de sa parole écrite, la Bible. Et elle est suffisante pour nous instruire. De manière irrévocable, Dieu nous a aussi parlé par son Fils, Jésus-Christ, qui est la parole incarnée. Son incarnation en tant que vrai Dieu et vrai homme a manifesté la grâce et la vérité. On connaît la puissance créatrice de la parole de l'Éternel dans la création. C'est parce que Dieu a parlé que la création a été. Aussi, la parole de Dieu peut produire la vie en l'homme qui accepte par la foi le sacrifice de Christ comme moyen de rédemption. Et ainsi, par un acte créateur de la part de Dieu, et grâce au Saint-Esprit, chaque personne qui croit en Jésus-Christ devient une créature nouvellement créée. Comme la chenille qui deviendrait papillon. De plus, si on prend la chenille, eh bien on voit que la chenille n'emporte rien de son ancienne nature. On aurait du mal à s'imaginer le papillon nouvellement créé emportant les vestiges de son ancienne vie. Et le papillon ne s'en soucie pas. Il découvre les choses du céleste, de loin les meilleures, en évitant de porter son regard en arrière. Nous avons vu que la promesse de l'envoi de l'Esprit et le don de la vie éternelle sont pour celui qui croit. Alors qu'attendez-vous ? Ne restez pas sous la condamnation de votre ancienne vie inchangée. Même si notre ancienne nature ne disparaît pas comme par enchantement à la conversion, il est vrai que le Seigneur peut ôter de nos vies de gros péchés. Et il demande de nous une participation active dans le changement qu'il opère en nous. Vivons-nous les choses nouvelles qui sont agréables à Dieu ? Le fidèle, né de nouveau, doit faire preuve de dénouement en s'efforçant de changer d'attitude et en avançant vers de nouvelles perspectives de vie. En Christ signifie aussi la maturité vers laquelle tendre. Et cela inclut la notion de progression. Pour ma part, avant ma conversion, je baignais dans l'occultisme avant de rencontrer Jésus. Le salut en Christ a marqué pour moi un choix durable. S'en est suivi la destruction par le feu de mes livres sur l'occultisme. Et plus tard, d'autres objets aussi ont été détruits dans mon appartement. Et des amis que j'ai ici aussi dans la salle ont participé à la destruction de ces œuvres qui étaient liées à l'occulte, qui avaient un lien avec mon ancienne vie. Et j'essaie aujourd'hui de mettre un point d'honneur à ne plus entrer en contact avec ce milieu. Tout comme le papillon, bien, ne continue pas à voler avec son ancien lui, les vestiges de son ancienne vie. Alors nous venons de voir le premier effet de la réconciliation, être une nouvelle créature. Alors réconciliez-vous avec Dieu pour devenir cette nouvelle créature. Regardons maintenant le deuxième effet de la réconciliation, être en paix avec Dieu. 2 Corinthiens 5, 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Et tout cela vient de Dieu. Un enfant de Dieu, né de nouveau, est réconcilié avec Dieu par la foi, par le fait qu'il ait cru que Dieu a pourvu au sacrifice par l'intermédiaire de Christ comme substitut. Être en paix, réconcilié avec Dieu, cela est le produit de l'Esprit et survient par l'acceptation de Christ. Et non par les œuvres méritoires de l'homme, puisqu'en effet, il n'y a aucun mérite à être pécheur. Sinon, pourquoi Christ serait-il venu mourir si on peut se sauver par nous-mêmes? Si les hommes veulent se persuader que tout va bien, c'est que leur conscience est mauvaise. Sinon, ils ne chercheraient pas à se justifier. De plus, il est impossible à l'homme de naître de nouveau par soi-même, par un quelconque mérite. Ce n'est pas la comparaison hâtive envers notre prochain qui nous assurera le salut. Dieu n'a pas égard à cette manière de réfléchir toute humaine et remplie de prétentions. Jérémie 17,5 nous dit « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Alors ne placez pas votre confiance en vous-même, mais en ce que Dieu a fait pour vous au travers de Christ. Dieu ne secourt pas ceux qui se confient en leurs propres ressources. La bénédiction de Dieu est au bénéfice de ceux qui croient, mais la colère de Dieu est pour ceux qui n'ont pas confiance dans cette unique œuvre de salut. De Corinthiens 5, 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alors sur terre, Dieu était en Christ. Cela signifie que Jésus est divin. Dieu, en la personne et au travers de Jésus-Christ, réconciliait le monde avec lui-même. C'est l'activité à laquelle il était occupé durant son ministère terrestre. Et Jésus prêchait en disant « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Ce message est celui du prince de la paix. Christ prêchait l'évangile de paix à des hommes rebelles et pécheurs, vivant dans un monde impacté par le péché et demeurant fâchés, séparés et ennemis de Dieu. Alors qu'est-ce qu'être en paix avec Dieu? Christ était venu réconcilier les hommes pécheurs avec Dieu. mais il dut faire face à un comité d'accueil hostile à la cause de Dieu. La colère de Dieu repose toujours sur ceux qui refusent d'être réconciliés, alors que Christ veut faire de nous les amis de Dieu. Colossiens 1:20 nous dit « Il a voulu par lui, donc Dieu a voulu par Christ, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » À Golgotha, c'est là où le Seigneur Jésus a été crucifié, à Golgotha, sur la croix, lorsque Jésus a porté les péchés du monde, il n'a point imputé aux hommes leurs offenses. Pourquoi cela ? Parce qu'il savait que sa mission était celle de se substituer aux pécheurs en servant de rançon. Il a été fait péché pour nous, pour prendre sur lui la juste condamnation de Dieu qui revient à chaque individu. Le châtiment est tombé sur lui. Si Christ, par sa mort et sa résurrection, justifie le pécheur, comment pouvait-il le condamner en lui imputant ses offenses, ses fautes ? Il ne le peut évidemment pas, c'est logique. Dieu propose un médiateur, Jésus-Christ, par lequel les péchés des hommes peuvent être pardonnés à tous. Dieu, en effet, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est 1 Timothée 2,4 qui nous le dit. Mais attention, cela est seulement valable et efficace pour ceux qui sont en Christ, qui croient en son sacrifice et à son œuvre de rédemptrice. À qui veut le croire ? La paix et la réconciliation sont possibles grâce à Dieu, le Père, qui a envoyé son Fils par pure grâce. Il faut accepter Christ comme sauveur pour être déclaré juste. De Corinthiens 5:20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alors, quelle est cette fonction d'ambassadeur pour Christ ? Et quelle est cette parole de réconciliation que Dieu a mis en nous ? Nous savons que Dieu était en Christ. Il était cet homme de paix. Il était Dieu, venu s'incarner pour expier le péché des hommes. Dieu a mis en nous, qui sommes en Christ, la parole de la réconciliation, avec la fonction qu'il veut nous voir faire. Cette tâche noble est celle de l'ambassadeur. Alors on l'a vu pour Kim Fook, elle est ambassadrice à l'UNESCO. Et bien pour nous aussi chrétiens, nous sommes ambassadeurs. Et l'ambassadeur, eh bien, se fait porte-parole de Dieu en étant lui-même réconcilié et participant de la vie de l'Esprit. L'homme né de nouveau jouit de la paix et de cette responsabilité que Dieu offre à chaque fidèle, celle du ministère de la réconciliation. Le chrétien en a-t-il conscience ? C'est ainsi que nous sommes, pour les gens du monde, des sources d'encouragement, puisque Dieu veut nous utiliser comme ambassadeurs de sa parole, même si la réaction que nous générons chez les autres ne ravit généralement pas. Annoncer Christ autour de nous, le faisons-nous ? Romains 10, verset 12 nous dit « Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. » Et Romains 10, 14 nous dit « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment n'entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Mais comment les hommes croiront-ils en Jésus-Christ s'ils n'en entendent pas parler? Et si parmi les chrétiens, on en parle peu ou pas? Proclamer, annoncer publiquement la bonne nouvelle, ce n'est pas la seule fonction réservée aux pasteurs. Le Seigneur veut nous voir accomplir cette fonction de prédicateur, cette fonction d'annoncer la paix, la vérité de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour la réconciliation des hommes avec Dieu. Être réconcilié avec Dieu, c'est aussi pour le chrétien et la chrétienne annoncer cette parole de réconciliation aux perdus. Sans ça, on ne fera que parler de réveil, sans qu'aucun changement n'opère chez ceux qui, chaque jour, périssent. Nous avons un message universel de paix à transmettre afin que des hommes pécheurs soient réconciliés avec Dieu et échappent à sa colère. Tous les croyants devraient servir Christ en tant qu'ambassadeurs. Ce ministère de propagation de la foi est en partage à tous ceux qui croient, sans exception. Une fois l'annonce faite, il ne restera plus qu'à l'homme d'accepter en se repentant. Il s'agira de déposer les armes, d'abdiquer en mettant fin à sa propre révolte et entrer par la foi en Jésus-Christ dans ce nouveau rapport de paix avec Dieu. Le message est clair. L'homme, pour être en paix et ami de Dieu, doit être réconcilié avec lui. Ce n'est pas une option, mais un ordre donné avec encouragement et aussi une alarme retentissante de la part de Dieu qui nous encourage à le chercher. L'homme qui n'obéit pas à cette bonne nouvelle demeure toujours sous la colère de Dieu et ennemi de Dieu. C'est pareil. Et s'il persévère à ne pas vouloir se soumettre à la volonté de Dieu, il risque de périr et sera dans l'attente terrible du jugement, en attendant le châtiment qui lui est dû, alors qu'il aurait pu être gracié. Par pitié, réfléchissez à l'amour que Dieu vous porte en vous évitant un tel sort. Dieu nous encourage à ne pas être timide, mais à parler de lui autour de nous. Comment ? Et à qui puis-je annoncer cette bonne nouvelle? Eh bien, il y a nos familles, nos amis, les collègues au travail, avec qui nous pouvons être des instruments de paix. Dans les familles, on rencontre des tensions, des critiques. Eh bien, le chrétien, par son attitude, peut aider à pacifier les relations. Après, s'il est timide et qu'il manque de pouvoir s'exprimer librement, il y a toujours le fait de pouvoir tendre un traité ou l'autre. C'est aussi parlant. Au travail maintenant, il y a des conflits, du mensonge, des discussions obscènes. En refusant de critiquer ou en ne m'associant pas à leur conduite, je peux témoigner de ce modèle. Que ne connaissent pas, savoir Christ. Dieu voudrait que l'homme puisse voir que ses actions lui déplaisent et que la somme des péchés et ses conséquences provoquées à autrui méritent à l'homme l'enfer. Pour nous qui le savons, il en va de notre responsabilité d'annoncer qu'une œuvre formidable de rédemption a cours aujourd'hui par la foi en Christ, qui a obtenu la rédemption aux hommes par son sang versé. Il ne vous reste plus qu'à y croire. Nous ne négocions pas la paix comme le ferait un négociateur dans une prise d'otage, nous annonçons la paix. Et même si nous supplions, nous ne faisons pas pression comme le ferait un gardien de la paix armé qui aurait pour rôle de ramener la paix et l'ordre par la force. Si les agents censés amener la paix sont armés, alors qu'en sera-t-il lors d'une guerre ? Je vous annonce que la paix du Seigneur est tout autre. Nous venons de voir le deuxième effet de la réconciliation, être en paix. Réconciliez-vous avec Dieu pour être en paix avec lui et pour devenir une nouvelle créature, nous l'avons vu. Regardons maintenant le troisième effet de la réconciliation, être couvert par la justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, c'est Jésus-Christ. Et Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Comment se fait-il que Christ n'a point connu le péché ? Eh bien, nous avons vu que Dieu était en Christ. Et Dieu est saint. Par conséquent, il est impossible que le péché soit présent en Dieu. Nous savons que Jésus-Christ nous rachète. Il est l'agneau sans défaut et sans tache. De plus, il vécut sans commettre le péché. Christ saint peut seul être un sauveur. Un Christ non saint a lui-même besoin de salut. 1 Pierre 3,18 nous dit « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. » Qu'est-ce que veut dire pour Christ qu'il est devenu péché pour nous ? Le péché nous éloigne de Dieu. Il y a séparation complète entre nous et lui, comme nous l'avons déjà vu. Mais Dieu a trouvé un moyen d'abolir cette révolte de manière à ce qu'il n'y ait plus rien qui nous sépare de lui. Alors je dis bien, Dieu a trouvé un moyen. Ce n'est pas les hommes qui peaufinent leur religion à leur manière, hein, en faisant telle et telle et telle action, pensant se sauver. Non, c'est Dieu qui pourvoit à un moyen seulement. Dieu ne peut libérer les pécheurs tant que les exigences de la justice ne sont pas satisfaites. Dieu doit donc punir le péché. Ce n'est que par Christ, par sa mort, que Dieu peut être juste, tout en justifiant le pécheur coupable. Dieu a fait de Christ l'objet de sa condamnation. Christ a été fait péché pour nous. Aucune place pour un salut par les œuvres méritoires. C'est par la foi en Christ que nous sommes rachetés. Jésus-Christ est le juste mort pour des pécheurs. Et la position en Christ nous justifie devant Dieu, puisqu'il voit en nous sa justice que nous avons acceptée de lui, alors que nous étions pécheurs. Il est aussi victime propitiatoire. C'est un peu un terme compliqué, mais je vais vous l'expliquer. C'est-à-dire que son sacrifice, s'il est accepté par la foi, nous rend favorable aux yeux de Dieu, qui nous acquitte pour le jugement et nous évite ainsi sa colère. C'est cette idée d'être réconcilié et justifié par Christ qui est exprimée dans ces mots, devenir en lui justice. Romains 3, 21-22 nous dit « Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Là, on est loin avec ce verset de l'universalisme. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, tout le monde ira au paradis. Ne pas être réconcilié, c'est avoir mauvaise conscience. Aussi, peut-être, vous êtes-vous senti coupable. Vous savez que si la question du péché n'est pas solutionnée, c'est l'attente terrible du jugement. Être couvert par la justice, c'est avoir la conscience réellement apaisée avec Dieu. Jouir de l'assurance quant à notre état face au jugement de Dieu à venir. Pour l'enfant de Dieu qui est en Christ, après la mort, c'est la vie éternelle qui se poursuit. C'est une garantie certifiée par Dieu. Dieu voit tous les hommes et cherche à ce que tous soient réconciliés avec lui. Et il se montrera particulièrement attentif envers ceux qui se confieront en lui. Ne soyez donc plus dans la confusion, ne vous dites plus « j'ai la poisse » ou « j'ai pas de chance » ou « qu'ai-je fait au bon Dieu ?» Vous savez au fond, et tous nous savons, que nous avons offensé Dieu par nos actions coupables. On vous a menti en vous faisant croire qu'on peut avoir le bon Dieu sans confession. Oui, c'est un mensonge. Le message de l'évangile de paix est l'exact contraire. Dieu se donne à l'homme en envoyant son Saint-Esprit à celui qui se repent. Je répète, Dieu se donne à l'homme en envoyant son Saint-Esprit à celui qui se repent. Reconnaissez humblement que cela a coûté cher à Christ afin que vous soyez enfin revêtus de sa justice. Alors de nos jours, la justice se court. On a tous entendu parler de juges n'appliquant pas la justice, ayant des conflits d'intérêts. Et cela fait naître chez beaucoup un sentiment d'injustice profond. Si la justice est à deux vitesses, et qu'en haut lieu elle se place au-dessus des lois, c'est sans savoir qu'il y a un juste juge qui rendra à chacun selon ses œuvres, aux grands comme aux petits de ce monde. Après, je dois dire qu'il y a aussi la justice qui rend aussi un ordre précis et qui fait les choses en règle, que ce soit clair. Et il y aura un jour de rétribution. Il y aura le juste jugement de Dieu qui sera rendu. Et ceux qui n'auront pas été acquittés et qui auront refusé le seul moyen de salut qui est en Christ devront subir le châtiment éternel. Le coupable dans la vie de l'homme, c'est le péché qui réside en son cœur. C'est là une injustice devant Dieu. Les assurances-vie couvrent les frais d'obsèques. Mais vous donnent-elles des garanties après la mort? Ah, vous en avez de votre vivant, vous devez payer, ça c'est sûr. Avons-nous une assurance auprès de Dieu? Pourrons-nous encore jouer à cache-cache pendant longtemps? Alors les péchés, quels sont-ils? Immoralité, adultère, méchanceté, mensonge, amertume, arrogance, manque de pardon, égocentrisme, médisance. Et on peut aisément en rajouter. L'état de notre cœur est horrible. On le sait tous et Dieu le sait. Il connaît nos cœurs, nos pensées et nos actions. Quelle que soit la gravité de tes péchés, Dieu veut te pardonner et te couvrir. Et je te souhaite d'être couvert par la justice de Dieu, pour que Dieu ne voie plus que justice en toi. Dieu est l'auteur et le créateur de toute vie. Il a envoyé son Fils pour une œuvre d'amour. Cet amour de Dieu pour le genre humain a coûté à Dieu le sacrifice de son Fils bien-aimé. Sachez que sur la croix, Jésus était blessé pour nos péchés. Il a vécu le rejet, mais il a pour toi, il a pour vous la solution. La mort a été vaincue puisqu'il est ressuscité. Il attend de vous pardonner vos péchés. Si Dieu qui pourrait te condamner est pour toi, s'il est de ton côté, en supposant que tu choisisses d'être acquitté, alors tu serais incondamnable. Jésus-Christ est mort pour que l'homme pécheur, qui humblement se voit comme méchant et qui souhaite se repentir, puisse devenir cet homme justifié, gracié par le sacrifice de son désormais sauveur. Et si le juge te déclare innocent, alors personne ne pourra plus t'accuser. Tu serais couvert par sa justice. N'en déplaise aux hommes. Alors sachez que Dieu assure le salut à quiconque croit et espère en son secours pour être arraché à la mort et vivre en étant réconcilié avec Dieu. Arraché à la mort et vivre en étant réconcilié avec Dieu. Soyez pardonnés de Dieu en venant chercher refuge sous son aile, comme un poussin chercherait refuge et réconfort auprès de sa mère. Soyez assurés de cette source heureuse de sécurité de la part de Dieu. Une personne qui reçoit le pardon des péchés est réconciliée avec Dieu. Cela signifie de grands changements pour elle. Elle était sous la malédiction. Elle reçoit la bénédiction. Elle est délivrée du poids de la culpabilité et de la condamnation. Elle échappe à la colère de Dieu. Elle était aveugle et demeurait dans les ténèbres. Elle reçoit la lumière de la vie. Sa volonté était soumise au mal et maintenant elle est soumise à Dieu. Sa destination était l'enfer et c'est désormais devenu le ciel. Alors nous venons de voir les trois effets de la réconciliation. Le premier effet, être une nouvelle créature. Jésus est mort et a payé de sa vie nos transgressions. Il est ressuscité, bien vivant, et il nous voit. Pour toi qui ne le connais pas encore, sache que tu peux devenir son enfant. Tu peux prendre un nouveau départ. Par la foi en son sacrifice, tu peux bénéficier de cette nouvelle vie. Mais il y a surtout cette promesse de vie éternelle qui t'attend. Il souhaite te connaître et te sauver. Il est saint et juste. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, il nous connaît, nous conseille. Et je vous invite à bénéficier de cette réconciliation en lui étant agréable par votre conduite. Le deuxième fait, on l'a vu, être en paix avec Dieu. Dieu se révèle par la création, par la Bible, et s'est révélé en la personne de Jésus-Christ. L'homme qui l'accepte peut jouir de la paix avec Dieu et devenir l'ami de Dieu en étant réconcilié. Pour nous, croyants, nous sommes amis de Dieu, jouissant donc de cet état. Je vous invite à être ambassadeur de paix avec Dieu, en étant ses porte-parole, ici et là, dans vos familles ou au travail. Et si vous n'arrivez pas à parler, eh bien, en donnant l'un ou l'autre traité. Dieu veut te voir participer en tant qu'homme racheté et faillible au salut d'autres hommes, afin que des âmes non sauvées et hostiles à Dieu puissent bénéficier de cette réconciliation et devenir amis de Dieu en croyant à l'évangile de paix. Le troisième effet, on l'a vu, être couvert par la justice de Dieu. Dieu est le seul à pouvoir te racheter, le seul à pouvoir te pardonner, te pardonner de ta nature pécheresse pour te donner la vie éternelle. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Cela demande à l'homme d'accepter Christ par la foi. Si tu te repens en t'adressant à lui avec sincérité, assurément, il effacera la peine de tes péchés. Ce savoir pardonné de Dieu offre à l'homme réconcilié une sécurité parfaite. Et il n'a plus à subir la condamnation de Dieu, puisque Christ a pris ce châtiment sur lui. C'est pourquoi je t'invite à bénéficier de cette réconciliation en croyant à cette magnifique œuvre de rédemption opérée par Dieu. Accepter de bon cœur Christ comme substitut pour les péchés, c'est cela, avoir la vie éternelle. Alors je veux aujourd'hui m'associer à ce que Paul disait au cœur en proie à la révolte et dire aux pécheurs perdus: je vous en supplie au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Voilà, je vous remercie.
Amen.
Et je vous souhaite un bon dimanche.
Amen. Amen.
Eh bien, on peut la mettre sur, sur la radio, hein.
Très bien.
Radio France, hein. Alors, vous savez que cette personne vietnamienne dont a parlé Michael, j'ai vu cette photo, certains l'ont déjà vue, c'est une petite fille. On voit les avions américains qui bombardent au napalm, tout le village brûle, et il y a plusieurs enfants qui courent dans le chemin, couverts de napalm, en train de griller. Et on voit la petite fille en train de hurler, hurler. Et c'est celle-là qui est maintenant vivante, et qui est devenue chrétienne. Mais alors, ce qui est incroyable, c'est que j'ai vu la photo du pilote de l'avion qui avait jeté le napalm. Le pilote de l'avion qui a jeté un napalm sur cette petite fille est devenu chrétien, il a demandé pardon pour ses péchés et ils se sont rencontrés. Il a rencontré la petite fille.
Il a rencontré cette femme,
et il lui a demandé pardon, ils se sont réconciliés et ils sont chrétiens tous les deux. Ils étaient rayonnants tous les deux, rayonnants sur la photo, je vous le dis. Ça, c'est des miracles, ça. La petite fille en dessous, lui au-dessus, qui est tout comme ça, simplement obéit aux ordres des chefs, et puis allez, je t'envoie toute la misère sur les autres, et puis je rentre, hein, parce que j'ai bonne conscience, j'ai fait ce que je devais faire. Mais après, le Seigneur l'a repris dans les années qui ont suivi. Et les chemins se sont croisés. C'est le Seigneur qui fait ça. Pensez aux brigands sur la croix avec Jésus, hein. Quand Jésus était en train de mourir, le regard de Jésus vers le regard du centurion et l'autre. Et à un moment donné, le centurion qui dit: celui-ci est injuste, c'est le Fils de Dieu. Donc, vous voyez, l'œuvre de Dieu est grande et nous ne sommes pas dans les fables de Saint-Nicolas, merci Michael. Nous sommes dans la plus grande des réalités, la réalité fondamentale du monde pour le sauver. Voilà, je vais demander à Annette et à Véronique de prier pour terminer le culte, et que Dieu nous bénisse durant cette semaine.